Bon, ce matin, je m'étais dit, j'allais faire un petit effort pour préparer quelque chose pour les jeunes, les enfants qui sont souvent par là-devant. Et je m'inquiétais un petit peu il y a 2 minutes parce qu'il n'y avait personne. Alors, il y a quelques-uns de mes enfants qui sont arrivés, c'est bien. Et puis, il y a les plus grands-enfants qui sont toujours là. Merci d'être là. Est-ce que les jeunes voudraient peut-être s'approcher un peu, je ne sais pas. Ou bien je vous pose des questions depuis là, ça va aussi. Hein, mais... On fait un peu comme au cathé. Un petit peu d'interaction. Et merci, c'est cool. Je me sens moins seul tout à coup. Bon, quand je me préparais il y a quelques jours, comme je fais souvent, hein, je prie, je demande à Dieu, ok, donne-moi un peu des idées, un peu de créativité, parce que j'en ai pas toujours assez. Et puis il y a une idée qui m'est venue. Je dis, ah, je pourrais parler de donner toute la gloire à Dieu ou de rendre la gloire à Dieu. Et puis j'ai pensé à Ézéchias, qui est un roi assez connu. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de rois qui se sont succédés. Il y a eu les bons rois, les mauvais rois. Lui, c'était plutôt un bon roi, quoique à la fin de sa vie, bon, c'était pas top top. Voilà. Et puis c'est voilà, tout à coup, je pensais à plein de choses. Puis je me dis, oula, 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 j'ai bientôt assez de matière pour faire une prédication, donc il faut que je me calme. Et puis je vais me focaliser sur cette phrase, donner toute la gloire à Dieu. Et je me suis dit, ok, si je parle à des jeunes ou même à des plus grands, comment est-ce qu'on peut expliquer ça de manière simple? Les jeunes ou les enfants, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire donner toute la gloire à Dieu ou rendre la gloire à Dieu? Parce que même moi, je me suis rendu compte que j'utilise souvent ce terme, mais pour l'expliquer, c'est pas toujours simple. Est-ce que quelqu'un a une idée? Si vous ne savez pas, vous êtes comme moi. Hein. C'est pas grave. Ok. Eh bien voilà, j'étais comme vous. Je me suis dit, ouh, je ne saurais pas comment vraiment bien le dire. Et je me suis dit, ben, je vais demander à un outil controversé qu'on trouve sur Internet. Qu'est-ce qu'il en pense? Non, ce n'était pas Wikipédia. C'était un truc un peu plus interactif et encore plus controversé. Donc voilà, le but, ce n'est pas d'avoir un débat autour de cet outil, n'est-ce pas? Mais j'aime bien de temps en temps voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé sa réponse intéressante. Donc, les enfants, les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire? Ou déjà, qu'est-ce que c'est que la gloire? Voilà la réponse que j'ai eue. Tu peux mettre la slide suivante. Donc, d'après cet outil, hein, la gloire, c'est la reconnaissance. Ça, c'est un mot qu'on connaît peut-être déjà un peu mieux. L'honneur, l'admiration qu'on donne à quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'il a fait. Okay. Des fois, on fait ça avec des joueurs de foot, avec des artistes, avec voilà, ça peut être toutes sortes de personnes autour de nous. Hein. La reconnaissance, l'honneur, l'admiration qu'on donne à quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'il a fait. Et là, dans ce contexte, on pense à Dieu. Hein. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est tout ce qui montre sa grandeur, sa beauté, sa puissance et son amour. Okay, c'est pas mal comme définition. Ben, enfin, moi, j'ai trouvé bien, en tout cas, j'étais là, j'étais assez content. Donc voilà, donner la gloire à Dieu, eh bien, c'est lui donner notre reconnaissance, dire merci, en gros. Hein. Souvent, on en parle à la maison, on essaye de dire merci le plus possible, d'être dans la reconnaissance plutôt que dans la complainte. Et ça demande un effort conscient. Il faut être conscient de toutes les choses qu'on a, de toutes les bénédictions pour dire merci. L'honneur, l'admiration. Hein, plus on connaît Dieu, plus on a envie de lui dire merci, plus on a envie de lui rendre gloire. Parce qu'on se dit, mais en fait, ouais, c'est comme un roi majestueux quand on arrive devant lui et qu'il y a, je ne sais pas, une salle, un trône majestueux et qu'il y a toutes sortes de choses magnifiques. On a plein d'émotions et on a envie de lui donner gloire, n'est-ce pas? Mais c'est un peu comme ça que ça devrait être avec Dieu aussi. OK? Et puis ensuite, alors la prochaine question. Et j'en ai déjà parlé un petit peu, ça veut dire quoi? Rendre toute la gloire à Dieu. Tu peux mettre la slide suivante et encore la suivante. Eh bien, c'est reconnaître que tout ce qu'on a et que tout ce qu'on réussit vient de lui. Je le redis. C'est reconnaître que tout ce qu'on a et que tout ce qu'on réussit vient de lui. Alors là, on pourrait peut-être se dire, ouais, mais bon, quand même, tout, bah, il y a quand même des choses que je fais moi, quoi. Hein? Et c'est vrai. Mais. Comme je dis souvent, je préfère donner trop gloire à Dieu, si c'est possible, que pas assez. Je préfère dire trop merci que pas assez. Okay? Si je dis ben merci parce qu'il fait beau aujourd'hui, ben, peut-être qu'il aurait fait beau, quoi qu'il arrive. Hein, ce n'est pas Dieu qui a un bouton, puis aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il pleut. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde n'est pas d'accord. Ben voilà, selon ma compréhension, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais que cela ne nous empêche pas de dire merci pour tout, 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 tout. En fait, on ne serait pas en vie si Dieu n'était pas là. L'air qu'on respire, ben, il vient de Dieu. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tous les objets qu'on utilise, alors ce n'est pas lui qui les a fabriqués, mais sans sa création, sans la matière première, ça ne serait pas là. Donc tout vient réellement de Dieu. Donc on peut vraiment lui dire merci pour tout. Tout, 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 tout. OK ? Donc voilà. Donc on lui dit merci. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réussit vient de lui. Et non seulement de nous. C'est dire avec notre cœur, nos paroles et nos actions. Ce n'est pas juste nos paroles. Merci Seigneur, c'est grâce à toi. Donc essayez de penser à ça aujourd'hui. Tu es plus grand que moi et tu mérites l'honneur. Parfois on a tendance à mettre l'honneur sur nous, comme l'image qu'on avait au début, et tu peux mettre la prochaine image. Hein. On a le spotlight sur nous. Ah, j'ai marqué un but, je suis trop fort. Hein, ou bien j'ai bien réussi mes examens. On parle souvent de ça avec les enfants hein, autour de la table. Et puis après, il y en a un qui dit quelque chose, puis après, il y en a un autre qui se sent obligé de dire encore un truc encore mieux. Puis après, on finit avec des aberrations pas possibles. Moi, j'ai fait 1 million de fois ça. Puis, attends. OK ? Calmos. Donc on enlève le spot qui est sur nous, et puis on met le spot sur Dieu. Et on lui rend gloire. Donc c'est un peu ce qu'on veut faire ce matin, hein, entre autres choses. Juste là, on va chanter. On va chanter à Dieu, on va le remercier, on va dire des choses par nos paroles. Et en partie, on va lui rendre gloire. Parce que plus on le connaît, plus on a envie de lui rendre gloire, de le glorifier, de lui dire merci, de lui donner tout l'honneur qui lui est dû. OK, ça marche ? On fait ça ? Alors merci au groupe de chant qui s'est préparé pour ce moment. Et puis je vous laisse la parole.
Bonjour chers frères et sœurs. Alors, quel plaisir de pouvoir louer le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous. On va chanter « J'aimerais, ô mon Dieu ». J'aimerais, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia, ah, ah, ah. Alléluia. Heureux quand je t'écoute et que cette parole qui a engendré tout ce que tu as voulu s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut. Alléluia, ah, ah, ah. Alléluia. Heureux quand je te parle, je fais monter vers toi un refrain mélodieux avec la liberté d'un enfant face au Père et l'étrange frayeur d'un pécheur devant Dieu. Alléluia, ah, ah, ah. Alléluia. Heureux lorsque qui voudrait ma chute, prenons la croix pour âme et l'agneau pour sauveur. Je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur et tout meurtri, tout meurtri, mais vainqueur. Alléluia, ah, ah, ah. Alléluia. Toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour faire Jésus-Christ, pour penser l'Esprit Saint, que peut prendre l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du bonheur près du Dieu trois fois saint. Alléluia, ah, ah, ah.
maintenant, nous allons écouter les coups qui frappent sur nos cœurs. Il nous tend les bras et il nous réclame. Nous voulons lui dire, viens au secours de notre peu de foi. Viens, mon amour, j'ai tant besoin de toi. Chantons, entends-tu ?
Entends-tu les coups qui frappent sur ton cœur? Entends-tu, écoute, car il est bientôt là. Il t'attend à l'oreille de ton âme. Il te tend les bras, il te réclame. Viens au secours.
Proclamons que nous croyons en Dieu, au Fils et au Saint-Esprit, qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver. Chantons le Credo.
Thank you. Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur.
Voilà, les enfants, vous êtes assis, mais vous allez vous relever. C'est le temps d'aller dans vos groupes. Je ne sais plus si les jeunes du cathé, vous allez aussi vous retourner dans le groupe ou bien vous restez par là. Bon, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc oui, oui. Alors, on vous souhaite plein de belles choses dans vos groupes, avec Dieu, avec vos monos, avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se voit tout à l'heure, à la fin du culte, pour le café. À toutes. Vous n'avez pas tous besoin de me faire un bisou. Mais c'est très apprécié quand même. Voilà. Stéphanie, je t'invite à me rejoindre. Donc ce matin, c'est Stéphanie Fritz qui est avec nous. On est très content qu'elle soit là. Il y a eu un échange avec Philippe Anchaud. Philippe est à l'église évangélique baptiste de Genève. Et puis, c'est Stéphanie qui sera avec nous ce matin. Et on se réjouit d'entendre ce que tu as préparé pour nous, avec l'aide de Dieu, et je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton esprit qui nous inspire, qui nous guide dans cette vie. Merci pour ce qui a été préparé par Stéphanie, que tu la mettes à l'aise au milieu de nous ce matin, et que tu ouvres nos oreilles afin que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire à chacun. Que nous puissions continuer à avancer avec toi, à progresser, à apprendre et à te rendre gloire, comme nous l'avons vu au début de ce culte. Merci pour ton esprit qui œuvre en chacun de nous. Amen.
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Voilà, Stéphanie Fritz. Je suis venue l'an dernier, figurez-vous. Alors attendez, hein, il faut la télécommande. Alors la porte, c'est important, une porte. Une porte dans une maison. La porte, elle est d'abord nécessaire pour nous protéger. Nous protéger des agressions extérieures, d'abord. De la pluie, du froid, du chaud, des bêtes sauvages, et des voleurs et des brigands. La porte. Une porte, c'est important. C'est la sécurité, la protection. On se sent encore plus en sécurité et protégé lorsqu'il y a une double porte. Une porte blindée ou une porte sécurisée. Encore mieux encore, s'il y a une porte sécurisée en bas de notre immeuble, il y a une double porte, double sécurité. Et lorsqu'on a le moyen de vérifier qui souhaite obtenir l'accès à notre maison, sans que nous ayons à entrouvrir la porte. La sécurité, la porte. Les portes sont de plus en plus sophistiquées de nos jours pour nous protéger, protéger nos familles, protéger nos biens. C'est utile, une porte. Mais ce n'est pas seulement utilitaire et pratique, c'est aussi, ça peut être très beau une porte. Alors, les goûts et les couleurs, hein, mais il y a des jolies, enfin je sais pas, il y a des belles portes, c'est un bel objet une porte. Il y a des portes, alors en plus, voilà, voilà, il y a différentes portes, il y a toutes sortes de portes. Mais c'est d'autant plus beau une porte, que dans tout son symbole, même les symboles que représente une porte, ça peut être par exemple juste le mystère que représente une porte, le mystère de savoir ce qu'il y a derrière cette porte, toute l'imagination que cela peut générer en nous, des images, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? La porte, c'est aussi ce qui s'ouvre et ce qui se ferme devant nous. C'est aussi ce que l'on choisit d'ouvrir ou de fermer. La porte, c'est ce qui permet le passage ou le bloque, ce qui permet d'entrer ou de laisser entrer. On peut aussi décider d'ouvrir sa porte comme un cadeau que l'on fait. Eh bien, nous lisons ce matin un passage dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 10, les versets 1 à 10. Un passage dans l'évangile donc de Jean où Jésus parle justement de porte. Alors, je vais lire avec vous, ce sera plus simple. Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. La porte. Lorsque Dieu créa la terre, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de lieu où se cacher. Parce qu'il n'y avait pas besoin de se cacher, de se protéger. Tout était passage. Tout était possibilité. Aller et venir. Tout était pureté, liberté, abondance. La première porte, si l'on peut dire, devient nécessaire lorsque la séparation entre les hommes et Dieu est établie tragiquement. Et les cloisons s'élèvent les unes après les autres, entre les uns et les autres. L'homme et la femme cachent leur nudité, puis se cachent de la présence de Dieu. Enfin, ils sont exclus du paradis et les chérubins gardent la porte du jardin. Ils gardent l'accès à l'arbre de la vie. Oui, les premières portes, les premières cloisons, les premiers murs s'élèvent pour marquer la séparation, la division, l'opposition. Plus grave encore, il s'avère que cette porte est quand même comme un mur. La séparation d'avec Dieu est infranchissable. Dieu se laisse voir. Dieu ne cesse d'appeler à lui. Son peuple, ceux qu'il aime, les hommes, les femmes, sur toute la terre, il les appelle. Mais la séparation qui est entre lui et eux est presque comme un mur que l'homme ne peut détruire. La présence de Dieu est inatteignable sans que lui-même intervienne. Et au cours des siècles, l'homme a essayé de construire, de creuser des portes dans ce mur pour atteindre Dieu. Mais il n'a pas qu'essayé des portes, il a aussi construit des rampes d'accès, des échelles, des escaliers. Il a essayé de se grandir pour passer au-dessus, se grandir, devenir plus grand. Mais il a aussi peut-être essayé au cours des siècles de s'abaisser au plus profond, en dessous, pour passer dessous au gré de sa créativité, il a essayé. Au gré de sa désespérance, il a tenté de toucher Dieu du doigt. Mais à chaque fois, c'est le mur encore, parce que seul Dieu pouvait faire quelque chose. Seul Dieu pouvait faire quelque chose. Et entre nous, c'est pareil. Entre nous, nous ouvrons nos portes à certains et nous les fermons à d'autres, parfois sans beaucoup de discernement. Et nous tenons si fermement à nos portes et à nos cloisons. Nous avons ces choses que nous mettons qui nous séparent. Pourtant, nous ressentons bien ce profond besoin de nous relier à l'autre, d'être en connexion à l'autre, à notre conjoint, à notre famille, à notre ami. Mais au fond de nous, nous ressentons encore également ce besoin souvent de nous protéger de ce qui peut nous nuire, de ce qui peut voler ce que nous avons. Et à cause de nos propres murs, de nos propres peurs, nous avons du mal à ouvrir la porte véritablement, la porte de notre vie aux autres. Et c'est dans cette situation inextricable entre l'homme et Dieu, mais aussi entre nous, que Jésus vient nous rencontrer dans ce passage. Et il le fait de deux façons, et l'image change au cours de ce passage. Jésus d'abord se présente comme le berger qui entre par la porte pour venir à la rencontre de ses brebis. Ensuite, il dit qu'il est lui-même la porte. Je suis la porte. Oui, Jésus dit d'abord qu'il est celui qui entre par la porte. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Et Jésus est le bon berger. Il n'y a qu'un berger des brebis. Il n'y a qu'une porte. Et le berger est le seul qui soit autorisé à entrer. Si d'autres essayent d'entrer par autre chose que la porte, en empruntant un autre passage, c'est qu'ils ne sont pas les bergers des brebis. Ils ne sont que des voleurs, des brigands, des usurpateurs et des prétendants. Au verset 8, Jésus parle de tous ceux qui sont venus avant lui. Les prétendus messies qui ont promis la liberté au peuple, tout en infligeant la guerre, la souffrance, l'asservissement. Ils sont ces voleurs et ces brigands qui cherchent à s'emparer des brebis, qui cherchent à se les accaparer. Mais Jésus nous dit ici qu'ils n'y arriveront pas, car ils n'en sont pas le berger des brebis. Leurs efforts seront voués à l'échec, dit-il. Quand bien même arriverait-il à s'introduire dans l'enclos, les brebis ne reconnaîtraient pas leur voix et donc ne les suivraient pas. Et au contraire, elle fuirait loin de lui. C'est vrai, derrière la porte de nos vies parfois bien hermétiques, effectivement, nous hésitons à baisser la garde devant n'importe qui. Ce n'est pas étonnant, car les voleurs, prétendants, hypocrites et profiteurs sont nombreux. Il y a cette crainte d'ouvrir à la mauvaise personne. Mais Jésus nous dit ici deux choses à ses brebis, à son peuple. Il dit « Ne craignez pas, parce que vous saurez reconnaître ma voix. Vous saurez reconnaître ma voix parce que vous la connaissez. Vous saurez reconnaître même peut-être mon pas sur le chemin, parce que vous le connaissez. Vous saurez reconnaître ma manière de faire même peut-être, la manière dont je soulève le verrou de l'enclos, parce que vous me connaissez. On le reconnaît. On reconnaît la voix de notre berger. On reconnaît la voix de Jésus parce que nous la connaissons, parce que nous le connaissons. Et Jésus dit, ne craignez pas, vous m'appartenez. Vous le savez, vous m'appartenez, vous me connaissez et personne ne peut m'arracher, vous arracher de ma main. Il dit cela aux brebis et en même temps il dit autre chose aux voleurs, aux brigands. À ceux qui souhaitent venir s'emparer des brebis que Dieu aime, Jésus dit, ce n'est même pas la peine d'essayer. Ces peines perdues, elles ne vous suivront pas. Les brebis n'écoutent pas la voix des prétendus messies qui attirent des foules. Elles n'écoutent pas les brebis, ces autres voix qui ne ressemblent en rien à la voix de Jésus. Ces voix des prétendus messies qui attirent des foules dans les stades, dans les parlements ou sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas la voix de Jésus. Les brebis n'écoutent pas les appels au conflit, les appels à la guerre, les appels à la division, à l'opposition, parce qu'elles savent, et nous savons, que notre salut, notre espérance, notre sécurité, ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons les obtenir, et non par l'épée, le bouclier, les combats, les divisions. Non, Jésus leur dit à ces voleurs, les brebis n'écoutent que la voix du bon berger, pas une autre. Cette voix qui ne ressemble à aucune autre. À aucune autre elle ressemble, cette voix. Et pourtant, elle est reconnaissable entre mille. Elle est reconnaissable de toute éternité, la voix du bon berger. C'est la voix de Dieu fait homme, qui n'est que paix, justice et vérité. La voix de Dieu fait homme. Et Jésus, dans sa vie, nous montre comment il a su dépasser les portes, les cloisons et les murs que les hommes avaient élevés entre eux. Jésus a tendu la main à tous, quels qu'ils soient. Il a touché les malades, il a touché les infirmes, les prostituées, les collecteurs d'impôts, il a touché les femmes, il a touché les hommes, les enfants, les soldats, il a touché les riches, les nobles et les prêtres, il a touché tout le monde. Que certains inspirent à d'autres l'admiration ou qu'ils inspirent le dégoût, pour Jésus, rien de tel, ni admiration, ni dégoût, mais une profonde compassion. Il a mangé chez eux, il a mangé avec eux, et il est allé jusqu'à mettre la main dans le même plat que celui qui allait le trahir. Il ne voyait pas les cloisons, les portes, les murs que les hommes avaient érigés entre eux. Il ne voyait que des brebis dispersées à qui il tendait la main pour les rassembler autour de lui. Oui, il n'y a qu'un berger, il n'y a qu'une porte. Mais il n'y avait pas de porte à notre enclos. Souvenez-vous, nous avons dit que c'était comme un mur, un peu comme un mur qui nous séparait de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de porte. Pour pouvoir ouvrir la voie à la réconciliation avec Dieu, il fallait qu'une porte soit créée. Il fallait qu'une porte soit ouverte. Et c'est là que Jésus dit : Je suis la porte par où passent les brebis. Au prix de sa vie, le berger a pu ouvrir une porte. En mourant sur la croix et en revenant à la vie, il a créé et ouvert cette voie de passage, ce chemin de la vie. Et c'est ainsi qu'il est la porte. Jésus dit : Je suis la porte par où passent les brebis. Il n'y en a pas d'autre. Jésus dira plus loin au chapitre 14 : Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit-il au chapitre 14. Jésus, la porte, une porte simple, une porte qui n'attire pas le regard, une porte même marquée par le sang et le sacrifice. C'est une porte d'humiliation et de rejet, mais c'est la seule porte. Toutes les autres portes, toutes les autres voies, aussi belles et attirantes qu'elles soient, ne mènent qu'au mur. Le mur encore et toujours, la porte. La seule porte. Jésus est le seul moyen permettant aux brebis d'entrer dans la sécurité de la bergerie ou d'accéder au pâturage, d'aller et venir. Jésus était le seul à pouvoir devenir ce chemin qui nous mène à Dieu. Un passage qui laisse circuler l'air et la lumière, qui laisse passer la vie. Et en mourant, il a détruit tous les murs de la honte, les murs de l'orgueil, les murs de l'insatisfaction, les murs de la peur. En mourant sur la croix, il a défait toutes les chaînes qui nous empêchaient d'avancer. Il a détruit toutes nos portes blindées. Il a fait cela pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus, d'une certaine manière, a passé la main à travers nos barbelés et nos barreaux pour nous révéler l'ampleur de sa grâce et de son amour. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Cette vie abondante à laquelle Jésus-Christ ouvre notre existence est une vie en parfait équilibre sous l'autorité de Dieu. Le psaume 118 dit au verset 19 à 22 « Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. » C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel, dit le psaume 118. Les justes passeront par elle. Je viens pour te louer car tu m'as exaucé, c'est toi qui m'as sauvé. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Et ce passage est bien cité à propos de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais la porte aussi, c'est Jésus. Oui, c'est bien de l'Éternel que cela est venu, continue le psaume 118, et c'est un prodige à nos yeux. Oui, la porte qui mène à l'Éternel, la porte du salut. Par Jésus-Christ, l'Épître aux Romains nous dit qu'en 4, verset 9, que par Jésus-Christ, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. dans la même veine, Éphésiens 2, 18, « Grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. » Cette porte, elle est là, elle existe, elle est réelle. Jésus a agi en notre faveur, il nous appelle et nous pouvons le croire et le suivre. Cette porte, c'est une porte que l'on passe à genoux. Il faut se résigner à se faire tout petit pour passer par cette porte. Pour cela, il faut abandonner tout le superflu, tout ce qui nous encombre et nous empêche de passer. Finalement, on ne peut passer que juste soi-même, tout seul, à genoux. Et lorsque je me tourne vers Jésus, qui est la porte, je réalise tout à coup que c'était moi qui étais dehors. C'est moi qui étais hors de la présence de Dieu. Nous étions dans un ailleurs alors que Dieu, lui, n'avait jamais bougé. Et cette porte ouvre sur nos vies les bénédictions que Dieu souhaitait déverser sur nous depuis le début. Depuis toujours. Lorsque nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, ce qui est rendu possible par cette porte ouverte, eh bien, c'est que la vie circule comme de la sève. La porte, elle était comme fermée à clé à cause de notre péché. Mais la mort de Christ a ôté les chaînes, a ôté les cadenas, les verrous, pour que nous soyons libres. Plus encore, lorsque la porte s'est ouverte, le mur qui nous séparait de Dieu s'est écroulé. Lorsque la porte s'est ouverte, le mur s'est écroulé. Oui, nous le voyons encore partiellement, ce mur, c'est vrai. Nous ne voyons encore que partiellement, comme par à travers d'un voile. Mais la brèche est ouverte. Et le Saint-Esprit est là en nous pour nous le signifier. Que le mur s'est affaissé. Oui, le bon berger. Le bon berger nous appelle encore ce matin. Est-ce que vous entendez sa voix ce matin? Est-ce que vous la reconnaissez, sa voix? Il vous dit à nouveau que le mur qui nous séparait de Dieu n'est plus. Il nous rappelle encore une fois que les murs de l'orgueil, de la honte, de la peur, de l'insatisfaction n'ont plus lieu d'être. Reconnaissons sa voix, écoutons sa parole, suivons son commandement. Et à notre tour, attachons-nous à abattre autour de nous tous les murs, les cloisons et les portes qui nous séparent les uns des autres. Je ne sais pas quels sont les murs qui vous séparent des autres, qui vous séparent de l'un ou de l'autre. Mais nous sommes appelés à les abattre, ces murs, et à ouvrir tout grand nos portes pour accueillir encore ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, ceux qui sont pauvres, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les étrangers, les riches, les grands et les petits, les tout petits. Oui, ce matin, Jésus vient dans notre situation et nous demande de faire sauter les verrous de nos cœurs, faire sauter tous ces verrous pour aimer à notre tour ceux que Dieu met sur notre route. Et il nous envoie aimer à notre tour ceux que Dieu met sur notre route. La porte. la porte. Je vous invite à prier.
Merci Stéphanie. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, comme ça a été proposé tout à l'heure. Et je vous propose de prier de trois manières différentes. La première chose, c'est peut-être que parmi nous ici, ou peut-être parmi ceux qui nous écoutent en ligne, il y a quelqu'un qui n'a pas encore passé par cette porte. Qui se cogne la tête contre le mur, qui essaye de grimper de toutes les manières possibles, parce que nous soupirons tous à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais il n'y a qu'un moyen de passer, c'est par cette porte. Alors si c'est vous ce matin, sachez que cette porte est toujours là, disponible. Jésus vous attend, ce n'est pas compliqué. Il faut simplement accepter, il faut dire oui, je suis d'accord de passer par cette seule porte pour être réconcilié avec Dieu le Père. Si c'est votre cas ce matin, faites-le simplement, priez dans votre cœur ou à voix haute. Plusieurs personnes sont disponibles si vous avez envie de parler avec quelqu'un, mais ne laissez pas passer cette opportunité. La porte est là, il faut simplement l'ouvrir. Et peut-être que Dieu vous a parlé ce matin, ses brebis entendent sa voix. Nous avons peut-être entendu différentes choses. J'aimerais que nous puissions répondre à Dieu. Peut-être qu'il nous rappelle quelque chose, peut-être qu'il nous demande quelque chose. Peut-être qu'il y a encore des murs dans nos vies qu'il aimerait abattre. Eh bien, prions pour cela. Intercédons. Remettons-lui ces choses de nos vies. Et puis finalement, j'aimerais qu'on puisse aussi le louer, lui rendre gloire. Parce qu'il est ce Dieu merveilleux qui, dès les origines du monde, à penser à une solution pour que nous puissions avoir cette réconciliation avec Dieu le Père, pour que nous puissions à nouveau aller et venir librement vers Dieu, que nous ayons de quoi nous nourrir et que nous ayons accès à cette vie abondante qu'il nous promet. Remercions-le pour tout cela, n'est-ce pas ? Rendons-lui gloire. Alors voilà, je vous invite à prier. Priez simplement ce qu'il y a sur votre cœur. Suite à ce que nous avons entendu.
Thank you. tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Oui, Seigneur, merci de ce que tu m'as fait cette grâce qu'un jour j'ai pu ouvrir cette porte. Et que tu as fait de moi ton enfant et que tu me dis que tu me connais par mon nom. Seigneur, de savoir que tu me connais, tu sais qui je suis, tu sais ce dont j'ai besoin. Merci pour cette immense grâce et cet amour pour moi. Et Seigneur, mon désir, c'est qu'il y en ait encore beaucoup qui découvrent cette grâce. Alors je te demande qu'il y en ait encore beaucoup qui entendent ta voix et qui ouvrent la porte et qui soient sauvés. Seigneur, encore une fois, reçois toute la gloire. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je prie, de Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Amen.
Dans cette liberté à ta suite, Seigneur, dans ta présence. C'est toi qui nous conduis et nous voulons nous réjouir parce que toutes choses deviennent nouvelles, parce que tu nous éclaires, parce que tu fais de nous des nouvelles créatures. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles par l'Esprit aussi. Et tu fais de nous des écoutants qui entendent ta voix et qui se réjouissent d'être avec toi, de pouvoir entrer un jour à travers cette porte des cieux. Merci, tout est bien fait. Amen.
Amen.
Jésus, j'aimerais te dire merci pour ce que tu as et tu auras toujours la délicatesse de frapper à la porte. Tu n'entres pas d'office, tu n'es pas ton pied dans la porte. Libre à nous de t'ouvrir ou de laisser fermer. Seigneur Jésus, pour moi, on nous sensible à ce toc-toc pour t'accueillir tous les jours.
Oui, Seigneur, merci pour le jour glorieux où tu as ouvert la porte et que j'ai pu rentrer. Je veux te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ce privilège. Mais Seigneur, que mon cœur ne ferme pas la porte à ceux qui m'entourent, ma maison, tout mon être, et que je suis sauvée, mais que je ne me contente pas de ça. Mais que je parle autour de moi, que je les apprenne, que je les encourage à rencontrer le chemin, que je les aide dans mes possibilités, dans mes moyens, tout ça, mais que d'autres puissent aussi remonter cette porte qui est toujours ouverte pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui veulent rentrer. La porte est ouverte pour tous ceux qui veulent rentrer. Alors, Seigneur, que je puisse faire ma part aussi pour le autour de moi, pour mon affaire pour moi. Amen.
Amen.
Amen. Alors, nous lui avons dit merci par nos prières. Nous voulons encore le faire par un chant. J'invite les musiciens à me rejoindre. Un chant qui parle de la croix. La croix sans laquelle, sans le sacrifice de Jésus, voilà, il n'aurait pas pu être cette porte qui nous donne accès au Père, qui nous permet d'aller et venir librement. Alors nous voulons encore le chanter. Et puis, suite à ce chant, on prendra une offrande. Et c'est volontiers si trois personnes peuvent m'assister. J'oublie toujours de demander avant le culte. Merci d'avance. Voilà, nous voulons maintenant prendre une offrande, une autre manière de rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas si c'est juste moi, hein, mais souvent on est attaché à notre argent un peu plus qu'il ne le faudrait. Et donner de notre argent, eh bien, c'est un signe fort, finalement, qui va à contre-courant de ce que le monde nous enseigne. Le monde nous enseigne à garder notre argent pour nous, et puis Dieu nous enseigne à être généreux, et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Être généreux, donner un peu de notre argent pour Dieu, pour son royaume, pour cette église. Et comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 9, 7, Nous voulons donner librement. Que chacun donne donc comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, il n'y a pas d'obligation ce matin, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc que nous puissions donner avec joie ce matin. Et merci d'avance aux trois personnes qui se sont décidées pendant le chant à venir m'assister. Ceux qui se posent la question, ça marche bien. Et les gens commencent à l'utiliser, on est content. Merci beaucoup pour votre générosité. Et merci à toi, Seigneur, de qui viennent toutes choses. Nous te rendons gloire pour tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Tout vient de toi, y compris notre argent. Et nous t'en redonnons une partie ce matin en te disant merci. Merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu représentes dans nos vies. À toi soit toute la gloire. Amen. Alors, quelques annonces, ou avant les annonces, une présentation. Et Anne, ça va être à ton tour. Anne qui va nous présenter le lecteur de la Bible. Je te laisse la parole. Elle a préparé un petit sketch. Je les ramasse.
Le disciple Philippe rencontre un Éthiopien assis sur son char en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et Philippe lui demande, tu comprends ce que tu lis? Puis il dit, comment tu veux que je comprenne si personne ne me guide? Eh bien moi je vais vous parler d'un guide aujourd'hui, c'est une aide de lecture éditée par la Ligue pour la lecture de la Bible. Avant, ça s'appelait le lecteur. On lit toute la Bible. On passe quelque temps dans l'Ancien Testament, puis après on va dans le Nouveau Testament, puis on retourne dans l'Ancien Testament, ainsi de suite. Si bien qu'on lit toute la Bible en 6 ans. Donc ça prend 4 ans pour l'Ancien Testament, 2 ans pour le Nouveau Testament. Donc vous comprenez qu'on ne lit pas énormément tous les jours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des commentaires qui sont faits par différentes personnes de Suisse, de France, de Belgique, du Canada, avec des sensibilités différentes. Et ces personnes nous font découvrir la richesse du passage qu'on a lu. C'est soit un encouragement, soit une explication, soit une remise en question, une promesse, une prière. Et c'est ce qui nous montre combien la Bible aujourd'hui est encore vivante et qu'elle nous parle dans nos situations. Combien de fois on lisait, ça nous rejoignait juste pour ce jour. Avec Alexandre, ça fait plus de 40 ans qu'on est abonné à ce guide et on est plusieurs dans l'Assemblée à lire la même chose le même jour. Et je peux vous dire, c'est ce qui fait aussi une communion fraternelle. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est pas moi qui choisis ce que je vais lire, parce que vous savez, Habacuc, c'est peut-être pas forcément ce que j'aurais choisi. Mais grâce à cette lecture, j'ai découvert aussi les perles qu'il y a dans Habacuc. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous communiquer cet enthousiasme pour la Bible qui est la parole de notre Dieu. Et je me tiens à votre disposition. J'ai quelques... Ben, ils sont tombés, mais ils sont relevés. Et si vous avez des renseignements, je suis prête à votre disposition. Belle journée et soyez bénis.
Merci beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il existe tout plein d'outils vraiment pratiques dans celui-là. Et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Ça nous aide beaucoup dans notre chemin de foi. J'ai des salutations des Sewell, Roger et Dominique. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, ils étaient pasteurs ici. C'était un couple pastoral. Ils sont partis maintenant en France. Et puis les chansons, les ont visités dernièrement. Les chansons ne sont pas là ce matin, donc il m'a demandé de transmettre les salutations pour tous ceux qui les connaissent. Ils vont bien, ils ont fait un voyage dernièrement pour aller visiter leur fille qui est missionnaire en Papouasie. Ils sont de retour et maintenant ils continuent leur ministère d'accompagnement à Entrepierre. Voilà. Je vous communique encore que Sylviane Bailly a été emmenée à l'hôpital pendant la nuit à 4 heures du matin. Donc, certains ont eu une nuit un petit peu plus courte qu'espérée. Ça va, il n'y a rien d'alarmant d'après les docteurs. Ils ont fait plusieurs tests. Donc, elle a son cœur qui s'était un petit peu emballé. Donc, il y a pas mal de stress lié à cette situation. Mais elle va rentrer à la maison. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres tests qui seront faits. Elle sera suivie. Mais prions pour Bernard, pour Sylviane, pour toute la famille. Petite particulièrement pour que Dieu donne sa paix dans cette situation. La Bible nous parle de cette paix qui surpasse tout entendement. Nous avons souvent besoin de cette paix-là dans des situations qui nous ébranlent. Et c'est ce genre de situation qui nous ébranle. Mais Dieu peut donner la paix malgré tout. Donc on prie vraiment que Dieu vous bénisse. On sait qu'il a son regard sur votre famille, qu'il veille sur tout. Il n'est pas surpris par les situations dans nos vies, mais qu'il vous donne vraiment sa paix dans tout cela. Aussi mentionner que quelqu'un a son anniversaire aujourd'hui, je suis bien informé, hein. C'est Michel Cretigny, on peut l'applaudir. Je ne sais pas si tu oses dire quel âge tu as, mais en général les hommes sont un peu moins... sensible.
Ce que je peux dire, c'est rendre gloire à Dieu. Il a 82 ans et j'ai eu une vie très remplie et j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui ont montré la porte aussi de la bergerie. J'ai été berger, moutonnier pendant très longtemps.
Ouais.
Mais vraiment, je rends gloire à Dieu qui nous a permis, malgré on a eu des temps difficiles, mais Dieu a répondu à notre attente et c'est vraiment, nous louons Dieu pour notre vie actuelle.
Ouais, super. Merci. Louange à Dieu.
Ouais. Mireille Heiniger.
Mireille Heiniger, qui n'est pas là, mais on l'applaudit quand même. Ah, c'est pour ça, j'ai vu des petits-enfants partir ce matin, peut-être qu'ils allaient fêter, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que c'est toujours le danger, hein, quand on fête quelqu'un, on ne veut pas oublier quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Charles Abel Piguet, dis donc. Alors, Charles Abel, on t'applaudit. Je sais que souvent, il nous regarde en streaming. Donc, joyeux anniversaire. Et puis, si vous nous regardez en ligne et que c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà. Encore deux petites annonces. On vous rappelle l'espace louange, alors qui aura lieu lundi et non pas dimanche, comme j'avais dit dimanche passé, je crois. C'est habituellement le dimanche, mais là, vu que c'est lundi de Pentecôte, ça sera le lundi 9 juin, entre 18h et 19h à la chapelle. Voilà, un moment de louange en toute simplicité. C'est David Jeunecamp qui anime ce temps-là. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et je vous rappelle également Merin-les-Bains. Je me tiendrai à nouveau à la sortie pour récolter vos noms, prénoms, si vous êtes libre et d'accord de vous investir pour cette journée-là. Ça sera le 7 juillet. Merin-les-Bains, c'est plusieurs semaines d'activité, mais nous, en tant qu'Église, on va animer la journée, la buvette, le repas, et puis un film le soir. Donc voilà, j'ai besoin de monde. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites. C'est super, merci beaucoup. Il m'en faut encore. Donc n'hésitez pas si vous avez congé ce jour-là et que vous n'êtes pas encore parti en vacances. Voilà, j'apprécierai. Très bien, on arrive au bout de ce culte. Je vais encore prier. Et puis on pourra aller profiter du café tout à l'heure. Merci Seigneur pour tout ce qui a été vécu ce matin. Merci pour ce que nous avons entendu. Je prie que ça apporte du fruit dans nos vies. Qu'on ne passe pas rapidement à autre chose, mais qu'on puisse te laisser, toi le bon jardinier, venir prendre soin de notre cœur, de notre jardin, arroser ce qui a été planté, afin que ça puisse croître, pousser. Merci d'arracher les mauvaises herbes dans nos vies encore, afin que ce qui doit pousser les bonnes choses puisse avoir assez de place, assez de lumière et porter du fruit. Merci de bénir chacun pour cette semaine à venir et nous te rendons toute la gloire. Amen. Bon dimanche. Merci encore à toi Stéphanie et à bientôt.